Good evening, welcome.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence. Alors, au départ, j'avais pensé vous parler de mon double concerto, et puis j'ai changé d'avis et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler d'un nombre plus important de pièces. Bon, on va le faire brièvement, bien sûr. Et si vous voulez les écouter, eh bien je peux laisser également les CD ainsi que les partitions, de manière à ce que dans les jours à venir, vous puissiez donc vous faire une idée de mon œuvre. Je voudrais vous parler quelque peu de mon passé musical. Donc, mon père était un ministre religieux presbytérien, donc je suis né en Corée. Il joue également du piano et ma mère joue également du piano de son côté. Donc j'ai eu un petit peu d'influence musicale de la part de mes parents. Et à l'âge de 4 ans, j'ai commencé à jouer du piano à l'église. Nous avions donc un petit piano. Je voulais devenir pianiste. Et puis, dans les années 60, en Corée, vous savez, on était relativement pauvres encore à ce moment-là. C'était d'ailleurs à l'époque le pays le plus pauvre qui existait. Et nous n'avions pas de possibilité de faire des études aussi facilement. Mes parents ne pouvaient pas payer pour ce genre d'études. Donc j'ai décidé d'apprendre le piano par moi-même. Mon père donc m'a enseigné les rudiments du piano. Et jusqu'à ce que j'aille à l'université, eh bien, j'étais autodidacte. J'ai appris donc la composition, j'ai appris à jouer du piano. Et à l'âge de 12 ans, mon professeur de musique à l'école m'a dit qu'il serait peut-être plus intéressant que je me lance dans la composition. Bon, à ce moment-là, je ne savais même pas ce qu'un compositeur était. Et je me suis dit, eh bien, pour devenir un compositeur, oui, peut-être que ça coûte moins cher, en fin de compte, que devenir un pianiste, parce que les leçons de piano, c'était quelque chose de très cher. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans la composition. Je voulais donc étudier à l'Université nationale de Séoul. J'ai raté deux fois l'examen, donc pendant deux ans, j'ai simplement fait des études. Et c'est à la troisième passage que j'ai réussi. Alors après mes études, je suis parti à Hambourg. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance d'avoir un excellent professeur qui venait d'Allemagne, qui avait étudié avec Boris Blacher, San Jung et d'autres, et qui donc avait des notions importantes en matière d'avant-garde musicale européenne. Parce qu'avant, je ne connaissais même pas des gens comme Stockhausen, Ligeti et d'autres compositeurs célèbres. Et donc pour moi, c'était la première expérience avec la musique contemporaine européenne. Alors, j'ai déménagé donc à Hambourg pour étudier avec Ligeti. Problème avec ce compositeur, bon, la dernière fois que j'étais venu, d'ailleurs, j'en avais parlé un petit peu, c'est que c'était très difficile. Je n'arrivais pas à composer. Et pendant trois ans, j'ai consacré tout mon temps donc, à étudier avec lui. Je n'avais pas la possibilité de composer. Donc, au départ, j'ai essayé de composer une pièce et puis j'ai arrêté pendant trois ans. Et c'était particulièrement difficile parce que j'étais relativement jeune et en plus j'étais vraiment sous pression de sa part parce que c'était un maître en la matière, un grand maître. Il était extrêmement exigeant. Il plaçait la barre tellement haut que je n'arrivais plus à suivre. Alors après les études à Hambourg, j'ai déménagé vers Berlin. C'était une sorte d'échappatoire. Il fallait absolument que je le quitte parce que c'était beaucoup trop compliqué d'étudier avec lui et même de vivre à Hambourg, dans la même ville. C'était quelque chose d'extrêmement complexe pour moi. Donc j'ai préféré déménager à Berlin. Et petit à petit, j'ai commencé donc à sortir du marécage dans lequel j'étais en train de patauger depuis un certain temps. J'ai rédigé des pièces, tout d'abord en musique électronique. La seconde phase, c'était une composition pour voix. Et la troisième était en fait une influence de la musique non européenne donc dans mes pièces. Alors, je vais vous présenter donc ces trois aspects de mon œuvre. Alors, la première chose dont j'aimerais parler, il s'agit de la musique électronique Gradus ad infinitum. C'est pour le piano. Donc, j'étais dans une université technique et c'est vrai qu'à cette époque-là, nous avions relativement peu de possibilités techniques. Nous avions donc un ordinateur central avec un programme qui était particulièrement compliqué à l'usage. Et pour faire de la musique, eh bien, il fallait donc imaginer la note, la tonalité. Il fallait ensuite transformer cette note en chiffre. Il fallait donc réfléchir de façon très abstraite. Alors à cette époque, je n'avais absolument aucune expérience de cette forme de musique. Je ne savais même pas comment d'ailleurs on allumait où on éteignait une télévision, soit dit en passant. Donc pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais c'était aussi une lutte existentielle, quelque part. Je me disais qu'il fallait que je redémarre la composition, sinon ben, j'aurais baissé les bras définitivement. Et donc, j'ai décidé malgré tout de m'engager, de travailler dans un studio. J'ai travaillé d'abord de façon relativement simple.
Alors,
j'ai d'abord composé la musique microtonale au piano parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas particulièrement fan, disons, de la musique électronique sur piano. J'ai décidé donc d'enregistrer un certain nombre d'air sur un piano, de faire des musicalités relativement simples, relativement basiques, et ensuite de répartir tout cela donc en 20 tons ou 20 sons avec systématiquement donc 8 voix. C'était une façon relativement simple de composer de la musique électronique. Alors il fallait que j'écrive les partitions et pour chaque note j'avais tout un travail d'encodage de manière à ce que l'ordinateur puisse reproduire le son, et donc ça prenait une éternité pour y arriver. Et dès qu'on avait terminé une voix, mais il fallait l'enregistrer et puis il fallait commencer à travailler sur la seconde, la joindre à la première, et c'est de cette façon-là que j'ai réussi donc à mettre ensemble les 8 voix, les enregistrer. Ça représente donc un travail colossal. En fin de compte, nous avions un peu plus de 70 000 notes donc au total. Alors, vous allez écouter 2 minutes de cette pièce. Si vous le souhaitez, nous allons lancer donc Gradus ad infinitum.
So it takes a little bit time.
Ça prend plus de temps. Thank you. Donc c'était la première section de Gradus ad infinitum. Cette pièce en fait compte 4 ou 5 sections et pour c'est prévu pour un surround, donc à 4 canaux. Alors, le second morceau que j'aimerais vous présenter s'appelle Allegro Manon Troppo, pour percussion solo et enregistrement. Donc, il s'agit en fait d'une musique. Je voulais faire quelque chose de concret. Et j'ai également donc enregistré des exemples, des échantillons de toute une série d'instruments de type percussion, ainsi que des sons, par exemple du papier de soie, des clés, un verre de vin, etc., téléphone et d'autres choses, donc des bruits que l'on a au quotidien. Donc, j'ai d'abord rédigé ou composé une partie musicale, ensuite une partie en solo. Et ce que j'aimerais faire maintenant, eh bien, c'est vous présenter la première partie de celui-là. Donc, on utilise le bruit du papier que l'on froisse. Et petit à petit, vous allez avoir donc une structure spectrale qui change, les couleurs qui changent également. Donc, on va commencer par le papier de soie qu'on froisse. Et ensuite, on va se déplacer progressivement vers des sons de cordes pincées. Et puis revenir au papier de soie. Et pendant cette première partie, vous allez remarquer donc qu'il s'agit en fait d'une sorte de théâtre pour une personne. Il y a donc une personne sur scène, un percussionniste, qui est dans une sorte de boîte, qui est remplie de papier. Donc il ouvre cette boîte. Papier de toutes les couleurs, il sort donc les papiers et il les jette dans l'air. C'est donc une sorte de performance théâtrale. Voici donc la première partie de Allegro Manon Troppo. Normalement, ça aurait dû durer un petit peu plus longtemps, mais bon, vous avez entendu l'évolution des sons. Alors, au moment où j'ai rédigé Allegro Manon Troppo, en fait, nous avions déjà donc, des programmes informatiques nettement plus développés, ce qui m'a permis de travailler avec des graphiques, notamment une interface graphique. Donc, c'était beaucoup plus facile que ce que nous avions fait pour Gradus ad infinitum. Le troisième morceau que j'aimerais vous présenter s'appelle Si. C'est un ensemble avec un enregistrement sur bande, 12 canaux avec un échantillonneur. Je pense également que c'est en fait le plus gros morceau électronique que j'ai écrit. J'utilise toujours des sons de type naturel, instrumental. Donc j'enregistrais des sons de piano. Mais pas de la même façon que pour Gradus ad infinitum. En fait, j'ai procédé d'une toute autre manière. Je voulais simplement enregistrer la résonance des 88 cordes du piano. Donc j'ai laissé la pédale ouverte. Et j'ai simplement tapé sur le cadre métallique à l'intérieur de l'instrument pour pouvoir enregistrer donc la résonance. Et sur ordinateur, ensuite en studio, j'ai pu supprimer donc les sons parasites et enregistrer, ce qui permettait d'avoir un bruit, donc, un petit peu comme un bruit de presse. Mais c'est un son de piano. Et donc j'ai également utilisé les harmoniques, donc 3 ou 4 sons de piano, 3 ou 4 harmoniques systématiquement. J'utilise ces sons donc comme matière première pour rédiger, pour composer cette pièce. Alors, ce sont des petits sons secs. Et à ce moment-là, je veux dire qu'on avait donc un excellent programme. Donc j'ai utilisé ce programme informatique et ça m'a permis de créer un morceau extrêmement complexe sur bande et ensuite de pouvoir composer donc pour l'ensemble. Alors nous allons écouter le début.
The sound, press noise sound. Could you please maybe could you play it until I give you sign?
Je vais vous demander de bien vouloir le jouer. Jusqu'au moment où je vous ferai signe. Donc au début, vous entendez 88 cordes de piano et petit à petit, donc, l'ensemble joue, l'ensemble de l'orchestre. Vous avez des percussions, vous avez des cordes. Et ce que je voulais faire également, c'était mettre en place une structure organique et biologique, c'est-à-dire des sons. Des sons de cordes notamment, et puis des sons qui petit à petit créent donc une mélodie, une musique. Le son, le bruit étant au départ la brique qui va servir à construire l'édifice. Donc ce morceau dure une vingtaine de minutes et la structure se complique à mesure que l'on avance.
We can now hear the climax.
Et nous allons maintenant entendre le point culminant de la pièce, donc lorsque toute la structure arrive au summum de sa complexité. Donc c'est le second morceau que vous allez entendre. Et si vous avez les partitions, c'est la page 31. Vous avez entendu la partie la plus complexe de cette pièce qui s'intitule Xi. Et à la fin du morceau, cette complexité se désagrège et revient donc au son, au bruit de base, pour finalement arriver donc à rien. Cette pièce démarre donc avec rien et retourne à rien. Et c'est en fait l'idée centrale que j'ai toujours donc, lorsque je compose de la musique. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à différencier les sons qui sont joués par l'ensemble et les sons qui sont électroniques. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à le faire. Personnellement, je suis assez fasciné par les possibilités qu'offre la musique électronique. On a la possibilité de réaliser une véritable fusion de l'électronique et de l'instrumental. Et une des raisons pour lesquelles je fais de la musique électronique, c'est que quand je travaille dans un studio et que je fais de la musique électronique, j'ai en fait le contrôle de tous les paramètres musicaux. Et c'est quelque chose qui me fascine depuis le début. Et c'est donc la raison pour laquelle je suis toujours un petit peu sceptique par rapport à la musique électronique en direct, en live. Alors nous allons maintenant passer donc à la composition pour voix. Alors on me demande parfois pourquoi j'aime composer pour des voix. Eh bien, parce que, pas parce que j'aime chanter, parce que j'ai horreur de ça en fait. En Corée, nous avons en fait une longue tradition de musique vocale, nous avons des gens comme Pansori, etc. Nous avons énormément de chants folkloriques aussi. Et les Coréens en général apprécient particulièrement le chant. Je crois que c'est d'ailleurs le seul pays dans le monde où tous les gens se rendent dans des bars et payent. Ce sont des bars particuliers, donc ils payent pour pouvoir chanter. Donc apparemment, le chant est dans la culture. C'est la raison pour laquelle j'apprécie particulièrement la composition vocale. Alors, en ce qui me concerne, quand on compose pour la voix, donc il faut utiliser un texte. Et les textes font passer des messages concrets avec une certaine signification. Personnellement, j'utilise également des textes, mais le texte pour moi, c'est simplement un outil. C'est un paramètre musical comme les sons, les tons, comme le rythme ou quelque chose de similaire. C'est juste un outil, ce n'est rien de plus, et donc je le traite également de façon tout à fait abstraite. Et le niveau sémantique du texte n'est pas pour moi quelque chose d'intéressant. Ce que je veux quand je compose, qu'il s'agisse d'un morceau normal ou d'un morceau pour voix, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une certaine liberté par rapport à la musique que je crée sans pour autant être attaché donc à un message concret. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise souvent des textes et des poèmes qui font référence à eux-mêmes ou qui sont éventuellement donc dénués de sens. Alors, je vais vous présenter maintenant Acrostic Word Play, Acrostic und Wortspiel. C'est en fait, donc Gradus ad infinitum était le premier morceau après les problèmes que j'ai eu avec Ligeti. Et celui-ci est le premier morceau pour voix. Et je me suis dit que je devais absolument arriver au bout, sinon j'allais me décourager et ne plus jamais composer. C'était mandaté par la Gaudi Music Forum hein, dans les années 80. Il était primé, donc il avait été demandé, mais bon, commandé, mandaté, si vous voulez, mais bon, je n'ai pas gagné d'argent avec ça. J'étais simplement heureuse de pouvoir être reconnue de cette façon-là et de pouvoir ainsi présenter donc, ce morceau. Et ce morceau est composé de 7 parties, 7 contes de fées, en quelque sorte, l'histoire sans fin de Michael Ende, et d'autres textes que j'ai repris et que j'ai transformés de certaines manières. Alors parfois on utilise uniquement donc les voyelles ou les consonnes, on les sépare même. À certains moments, on utilise la lecture inversée, ou bien on laisse tomber certaines lettres, ou on ajoute certaines lettres. On utilise également donc les suites ABCD, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, donc en mettant le texte lui-même. Et ça veut dire évidemment que le texte, en tant que tel, n'a pas de signification. C'est un outil pour le chanteur. C'est un prétexte. Le texte n'a aucun sens particulier. Et même si ce texte n'a pas de sens particulier, chaque mot, en fait, provoque une émotion de manière très abstraite. Nous allons donc maintenant écouter le premier morceau, le premier mouvement. Et donc, ça s'appelle « Hide and Seek ». Thank you.
C'était le premier mouvement de Akustischen Wortspiel, la piste 1. Donc, quelques instruments sont diésés, en fait, ce qui fait que on circule entre deux différentes tonalités. Donc, cette pièce, pour moi, était une première expérience avec du texte. Maintenant, vous pouvez écouter maintenant une autre pièce de Akustischen. Donc la pièce numéro 6, dont le titre Change, j'ai utilisé donc ABCD, c'est une pièce très amusante. Vous avez écouté donc le sixième mouvement, jeu de hasard, donc Game of Chance de Akustischen. Un deuxième élément que j'aimerais également présenter, c'est Cantatrix Sopranica. C'est également une pièce assez amusante pour deux sopranos et un contre-ténor ou un haut contre. J'ai deux très grands amis qui sont jumeaux, qui sont sopranos en Finlande, et j'ai composé cette pièce pour ces personnes. Et il s'agit de 8 mouvements qui donc font référence à eux-mêmes. Et donc le thème est que le chanteur chante sur sa manière, sur le fait de chanter. La pièce donc concerne le fait de chanter soi-même avec différents types de styles de chants sont présentés. Il y a leur manière normale de chanter avec des techniques contemporaines, après du style opéra italien, style chinois également, du yodeling, et puis également il y a des cris, il y a également des ricanements, et donc le chanteur imite certains instruments, des cuivres ou des percussions, et ils font également des pantomimes musicales. Alors, c'est peut-être pas si inhabituel d'utiliser ce type de technique parce que on retrouve ces aspects chez différents compositeurs de musique contemporaine. Mais pour moi, c'était de voir dans quel contexte je pouvais justement inclure toutes ces techniques. Et donc, le travail sur ces pièces était très important et très utile pour moi, très intéressant. Et j'aimerais donc présenter la première pièce qui s'appelle Warming Up et Tuning. Ça veut dire que bien ils font leur vocalise, ils s'échauffent, les musiciens s'échauffent et puis les musiciens s'accordent. Et dans les autres mouvements, les autres 7 mouvements, ce sont donc des fragments. Et la pièce résonne comme si vous étiez dans une salle, dans un vestiaire, avant un concert. Voilà, vous écoutez maintenant la première partie dans De Cantatrix Sopranica.
Thank you.
Voilà, vous avez entendu le premier mouvement de Cantatix Sopranica, donc accordage et échauffement de la voix. Bon, ce n'est pas uniquement en référence à soi-même, mais ce sont des clichés de chanteuses. Et donc cette pièce a été jouée à plusieurs reprises et après un certain moment, ils ont fini par comprendre, les musiciens, ce qu'il fallait comprendre dans cette pièce et puis alors ils étaient en colère. L'autre mouvement, le mouvement numéro 7 de Cantatrix Sopranica qui s'appelle Echo, Shadow and Canon, Echo, Ombre et Canon. Alors avec des séries de yodel et puis après il y a l'ombre, il y a l'écho, et puis à la fin de la pièce, il y a une sorte, il y a une dramaturgie vers la fin. Donc, septième mouvement, s'il vous plaît. Vous venez d'entendre le septième mouvement de Cantatrix Sopranica, Echo Shadow Canon. La pièce suivante, c'est mon opéra, donc Alice in Wonderland, Alice au pays des merveilles. en basant sur Cantatrix Sopranica. Pour écrire un opéra, par contre, c'était très différent parce que on a des choses assez compliquées. Il faut chanter, il faut mémoriser ce que l'on chante. Et puis, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la musique contemporaine donc doivent arriver à chanter, donc chantent un opéra. Donc, il faut... Il y a des styles différents. J'ai décidé donc d'essayer de me situer quelque chose entre la musique et l'opéra. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous allons écouter donc une petite scène. Une scène où Alice est dans la forêt et elle rencontre le chat, Cheshire Cat. Il y a un dialogue qui s'entame avec Cheshire Cat qui apparaît, disparaît, réapparaît, disparaît. Et puis, j'aimerais tout simplement vous montrer comment j'ai essayé de faire en sorte que le texte et la musique coïncident. Le DVD donc est bien de Pavilion States Opera lors de la première qui a été jouée avec une direction surréaliste.
Surprises! A poor attitude!
Voilà, vous venez de voir et entendre donc une des scènes de Alice au pays des merveilles, donc avec Alice et le chat du Cheshire. Maintenant, le troisième aspect de ma musique après l'électronique et la voix, c'est l'influence des musiques non européennes. Ma musique est influencée par tout type de musique. J'ai écouté la musique romantique, la musique classique, musique contemporaine, du jazz également, mais également et particulièrement des musiques traditionnelles d'autres pays qui étaient très intéressantes, que je trouvais très intéressantes. Et j'ai commencé à m'y intéresser lorsque je suis arrivée en Europe. Et à ce moment, il y avait une étude pour piano qui avait été composée et avec une touche d'Afrique du Sud. Différentes musiques traditionnelles étaient jouées. C'était donc le mot ne me vient pas. C'est la première fois que j'écoutais, que j'entendais ce genre de musique. Mais j'aimais beaucoup la musique balinesca et gamela. Ce sont des gamelanes japonaises et balinaises de Bali, en fait, musique de Bali. Donc l'une est plus ou moins statique, l'autre est plus du théâtre musical. Et on passe, enfin, d'un état à un autre immédiatement, et donc c'est très impressionnant. Et lorsque je suis arrivée à Bali, En 97, j'écoutais donc à Bali, j'écoutais du théâtre musical, j'écoutais de la musique, j'allais voir des pièces et j'ai vu comment ils composaient une pièce ensemble avec plusieurs personnes. Alors certains jouaient certains rythmes, d'autres des mélodies et puis ensuite ils combinaient un peu tous ces éléments pour en arriver à une nouvelle pièce. Et c'était très intéressant. Et j'étais impressionnée de la simplicité de chaque voix. Balinese Camelan, et donc l'auteur n'est pas, ce sont pas des professionnels, ce sont des agriculteurs en fait, donc ils travaillent le jour dans les champs et puis le soir, eh bien ils se rassemblent, ils se retrouvent avec une fleur dans les cheveux et puis ils jouent cette musique Camelan. Et ce sont des gens tout à fait normaux, et bien mais si vous l'entendez, et bien si vous l'écoutez, c'est une musique qui est très complexe, chaque voix qui est jouée par chaque personne est très simple, mais l'ensemble qui est combiné s'articule de manière très complexe. Et j'étais également influencée par la musique gamela, par la musique et la structure métrique. Et mon concerto pour piano que vous avez déjà entendu et l'étude pour piano que vous entendrez demain, jouée par Andrew Yolinsky, sont également influencés par la musique gamelan. Et la pièce que j'aimerais vous faire entendre, c'est le double concerto pour ensemble et percussion également, avec une influence de la musique gamelan. Mais ça ne veut pas dire que ma musique est celle-ci et la musique gamelan. C'est quelque chose de complètement différent. Et pendant que je composais mon double concerto, je voulais créer une sorte de musique hypo-gamélane, avec une touche gamélane, mais en la rendant davantage complexe et plus active également. Et c'est pour ça que j'ai choisi le piano solo, les percussions également. Le piano est préparé donc avec des points métalliques au registre central, sauf le mi et le système harmonique consiste en 12 tons divisés en différents tons pleins et donc il y a un aspect chromatique. Les 12 notes sont utilisées mais de façon différente. Donc nous allons maintenant écouter le début. C'est une partie statique au départ et puis ensuite dans le registre médium vous entendez des sortes de clusters et puis ensuite vous entendrez des petits fragments, des petites actions comme ça qui s'échappent un peu de ce cluster. On écoute donc le début du double concerto. Vous avez entendu donc le début du double concerto. Toute la structure est similaire à C. Ça commence, axi en fait, hein. Ça commence et puis ça se développe, ça prend de l'ampleur, ça devient de plus en plus complexe. Et nous pouvons entendre maintenant l'apogée donc de cette pièce. Page 69 pour les personnes qui ont la partition, où on a toute la structure harmonique qui se retrouve dans la totalité et qui est très complexe.
Voilà,
vous avez entendu l'apogée du double concerto avec une deux sections, enfin une section qui est répétée avec la même structure harmonique, mais avec une forme développée. La pièce suivante que j'aimerais vous présenter, c'est le Cheng Concerto. Le Cheng est un harmonica chinois en Asie, en Corée, en Chine, au Japon. On utilise donc cette musique traditionnelle où on utilise l'harmonica. C'est l'instrument de mon enfance, mais la musique coréenne traditionnelle, dans la musique coréenne traditionnelle, il s'agit d'un instrument d'accompagnement. Mais en Chine, il y a de très bons musiciens et des virtuoses et des pièces virtuoses avec cet instrument. Et j'aime bien cet instrument parce que il donne un son très précis et fixé par rapport à la traduction coréenne où il y a à la fois ce son qui n'est pas stable et pendant très longtemps je pensais à écrire une pièce pour cet instrument mais je ne pouvais pas y penser, enfin, jusqu'à ce que je rencontre des joueurs chinois, des musiciens chinois à Berlin, et j'ai entendu ce qu'ils jouaient, et puis c'est indescriptible, c'était incroyable, et donc je lui ai promis d'écrire une pièce, et donc en 2009 j'ai composé donc ce Sheng pour un grand orchestre, donc Sheng Concerto. Il y avait deux problèmes en fait pour pouvoir composer cette pièce. Le premier problème c'était que
this instrument can play 30 tones together, so very complex accord.
Cet instrument peut jouer 13 accords, enfin beaucoup d'accords en même temps, et je voulais un accord, des tons.
Don't start together and don't end together. So how to notate it?
Qui commencent ensemble et qui ne se terminent pas ensemble. Et comment noter tout cela? Alors, c'est un grand problème. Et il a fallu que j'y réfléchisse pendant plusieurs mois. Et puis, finalement, j'ai décidé d'utiliser deux systèmes, main gauche et main droite, et pour chaque main, un système. Et ensuite, donc, j'ai essayé de noter des accords assez complexes. Et puis, le deuxième point était que, bon, je connais les concertos pour piano, pour violon, je les connais très bien. Mais les concertos Cheng, pour Cheng. Alors là, je ne savais pas. Je n'avais pas d'expérience à ce sujet. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait et à quoi ça pouvait ressembler en composant un concerto. Donc pour moi, c'était une expérience tout à fait nouvelle et c'était un défi assez important. Et c'était vraiment un exercice à haut risque de pouvoir composer. Et puis j'ai finalement composé cette pièce. On en a joué la première. Et puis on va en écouter la première section. Et donc, ce concert était, l'idée était de créer différents types de sheng, avec un petit sheng, différentes tailles de sheng. Ensuite, pour des ensembles, des groupes, les cuivres, les vents, les cordes, donc il y avait d'autres sheng. Et puis ensuite, on rassemblait le tout pour pouvoir arriver à un grand orchestre avec un grand sheng. Donc je voulais faire des variations avec les tailles des instruments d'un point de vue acoustique. Et donc nous allons entendre le début de la pièce et on démarre avec rien. Vous avez entendu donc le début du concerto pour Cheng. Dans cette pièce, j'ai également essayé de combiner donc le Cheng avec des groupes instrumentaux. Et puis, nous pouvons écouter maintenant un autre passage qui se situe au milieu de la pièce avec une sorte de cadence. L'orchestre joue à des fragments aléatoires de manière dans une mesure très contrôlée. Le Cheng solo ensuite joue un rythme très strict, influencé d'une certaine manière par la musique traditionnelle. On y va. Thank you.
you heard the cadenza of my Shen concerto.
And that was very often that piece of my Shen concerto. Alors, c'est ce que vous venez d'entendre. Alors, j'ai souvent été critiquée par rapport à cette musique, pourquoi elle n'était pas en relation directe avec la musique coréenne traditionnelle. Et lorsque j'ai écrit cette pièce, beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, mais pour moi, cette musique, ce sheng était très intéressant en tant qu'instrument. C'est parce que, bon, c'est un instrument asiatique, mais ce n'est pas pour cette raison que j'ai pris cet instrument. » Mais bon, je vois que le temps passe. Je crois que nous sommes un peu en retard. Très bien. Alors voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui souhaite poser une question.
Question concrète dans ce concerto pour Shen. Vous avez donc parlé de votre système d'annotation. Alors je voudrais savoir si les personnes qui jouent des instruments donc savent comment lire cette partition. Ils démarrent avec une nouvelle partition sur un instrument assez traditionnel. Donc, comment est-ce que ça marche ? En fait, il existe des joueurs de chaîne en Chine, notamment, qui sont tout à fait capables de jouer ce type de musique européenne, mais il y a également d'autres musiciens qui ont l'habitude de jouer de la musique contemporaine sur des petites partitions, notamment. Donc, ils sont tout à fait capables de lire et ça n'a posé aucun problème. Quand vous écrivez un morceau, est-ce que vous avez un schéma avec une idée précise de la forme que vous allez lui donner ? Ou bien est-ce que vous procédez pièce par pièce ? Alors quand je compose, bon, ça peut sembler peut-être un petit peu étrange, c'est pour ça d'ailleurs qu'on m'a critiqué assez souvent par, enfin, notamment les Getty. J'ai une idée principale, une idée centrale. J'attends jusqu'à ce que l'idée mûrisse dans mon esprit. Et la première note est en fait importante. Si la première, la seconde, etc., donc, sont posées, il y a donc un contexte logique, il y a une relation logique. Et si j'ai le sentiment que ça marche, eh bien, je continue et je vais aller donc de A à Z. Et donc, je ne fais pas de schéma ou quoi que ce soit pour la musique orchestrale ou pour autre chose. Je ne fais pas d'esquisse. Je prends la partition, je compose sans ordinateur, sans piano. Même les morceaux pour piano, d'ailleurs, je les écris sans toucher au piano.
Besides Ligeti, who are your biggest influences?
Par rapport à Ligeti, donc quelle est votre mis à part lui, quelle est votre influence principale?
I think Ligeti was just my teacher.
Mais Ligeti, c'était mon prof, c'est mon professeur. Donc c'est pas le seul compositeur qui a pu m'influencer. C'est vrai que j'ai appris beaucoup et j'apprends toujours d'ailleurs de la musique classique de Bach ou d'autres. Enfin, toute forme de musique est intéressante. Et pour le moment, j'écoute énormément les symphonies de Mahler, par exemple. Stravinsky, Bartok, ils sont particulièrement importants. Sinakis, Gérard Griset. Il y a beaucoup de compositeurs que j'aime.
Professor Chin,
I'm not professor.
Okay. I'd like to know.
Je voudrais savoir si vous avez une préférence pour la composition de mouvements et de sections, donc dans vos pièces, et si cela a un rapport avec vos intentions artistiques. Mais je pense que ça dépend de l'idée de la pièce. Vous avez des pièces qui durent plus de 20 minutes. Alors si j'ai une idée intéressante par rapport à la façon de créer donc un mouvement, je vais écrire évidemment un mouvement pour soprano, par exemple. Pour le moment, je travaille plutôt sur des pièces plus longues. Merci beaucoup et bonne soirée.